Frères et sœurs, les amis, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, je saute, j'allais dire à pieds joints, sur la première lecture, ce livre du prophète Néhémie, que nous lisons très rarement, et qui s'inscrit dans la continuité absolue de ce que nous disions dimanche dernier en commentant la première lecture, celle du livre d'Isaïe, le dimanche dernier, le second dimanche ordinaire. Alors, j'allais dire avec un certain humour, nous qui n'aimons pas les liturgies qui durent plus d'une heure, nous serions servis. Voilà que ce peuple est debout depuis le lever du jour jusqu'à midi, et comme un seul homme, homme, femme et enfant, et tout ce temps à écouter des lectures en hébreu, une langue qu'on ne comprenait pas, et il fallait donc traduire en araméen, puisque c'était la langue de tout le monde à l'époque de Jérusalem. Et le peuple, à lire le texte, n'a même pas l'air de trouver le temps long. Au contraire, tous ces gens pleurent d'émotion et ils chantent, ils acclament inlassablement en disant « Amen, Amen ». Là, je fais une rapide parenthèse. « Amen » qui a été traduit plus ou moins maladroitement par « Ainsi soit-il », alors que l'étymologie hébraïque du mot « Amen » signifie la vérité, la foi, la fidélité. Tout ça sont des mots de la même famille que Amen. Voilà pourquoi, à mon sens, il ne faut pas le traduire. Gardons ce mot comme il est. Amen veut dire notre assentiment fort, notre manière de nous accrocher de manière très ferme à la vérité qui est Dieu. Parenthèse fermée. Alors, le contexte est le suivant. Nous sommes à Jérusalem vers 450 avant Jésus-Christ. L'exil à Babylone est fini. Le temple de Jérusalem est enfin reconstruit, même s'il est beaucoup moins beau que celui de Salomon, et la vie a repris. Mais une vie où le moral n'y est pas. C'est en ça que nous sommes dans la droite lignée de ce que nous disions dimanche dernier. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est qu'il y a des séquelles. On ne part pas en exil comme ça pendant tant de décennies sans qu'il y ait des séquelles, des drames des temps précédents. On ne se remet pas facilement des invasions, des saccages. Oui, il y a des cicatrices, à n'en pas douter, et des cicatrices pendant plusieurs générations. Cicatrices de l'exil lui-même et les cicatrices évidemment d'un retour difficile. Pourquoi ? Parce qu'avec l'exil, on avait tout perdu. Et ce retour tant espéré de ce qu'on appelait la terre promise, qu'est devenue cette terre promise hein? Voilà, il a fallu donc dire adieu à ce pays, et pour combien de temps hein? Imaginons toutes les questions que se sont posées ces personnes qui partaient en exil. Le temple était la preuve, la présence de Dieu, et le temple n'y est plus. Oui, Dieu, comme nous le disions dimanche dernier, Dieu aurait-il abandonné son peuple ? Alors, bien sûr que non. Mais ce fut une période terrible sur laquelle je ne m'attarde pas, car nous nous le rappelons assez souvent. Alors, Esdras et Néhémie sont les deux personnages qui habitent ce texte de la première lecture de l'Ancien Testament, de ce troisième dimanche du temps ordinaire. Alors Esdras est le prêtre, et Néhémie est un laïc, et tous deux, j'allais dire, vont marcher main dans la main pour tout faire afin de redresser la situation. Ils vont être donc les vecteurs de Dieu, bien sûr, pour redonner, comme nous disions dimanche dernier, espoir à ce peuple qui a le moral à zéro. Il faut relever ce peuple, lui redonner le moral. Cette communauté juive a d'autant plus besoin d'être soudée, et d'être soudée fortement. Elle qui a été au contact avec tout le paganisme, bien évidemment, ou l'indifférence religieuse. Alors nous savons que dans l'histoire d'Israël, et cela, à mon sens, est une question très actuelle pour nous aujourd'hui, comment faire la communion, comment faire l'unité. Eh bien, l'unité de peuple, du peuple, dans l'histoire d'Israël, s'est toujours faite au nom de l'alliance avec Dieu. Et les points forts d'une alliance sont toujours les mêmes, c'est la terre qu'on a en commun, la ville sainte, Jérusalem, le temple et la parole de Dieu. Voilà quatre repères qui parlent au peuple de l'époque et qui nous parlent à nous aussi aujourd'hui. Cette ville sainte, Jérusalem, Néhémie en est le gouverneur, il va donc en achever la reconstruction. Le temple, lui, est déjà reconstruit, reste la parole avec un P majuscule. Eh bien, on va la proclamer. Et on va la proclamer telle qu'elle est décrite dans ce que nous venons de lire du prophète Néhémie, au cours d'une gigantesque célébration en plein air. Rien de tel pour souder une famille que de lui proposer régulièrement des réjouissances. Ça, c'est très important. Alors, tous les éléments sont décrits et réunis pour soigner la mise en scène, si je puis dire, car c'est très important. La liturgie, telle que nous la vivons, a un côté aussi de mise en scène. On a construit une tribune en bois qui domine le peuple, et c'est de là que le prêtre Esdras et les traducteurs font la proclamation de la parole. La date est même choisie, nous dit le texte, le premier jour du septième mois, à l'occasion donc du nouvel an. Quant à l'homélie, bien sûr, elle invite à la fête. Le temps n'est plus aux larmes, le temps n'est plus à se lamenter, fussent-elles des larmes d'émotion, mangez, buvez, c'est un grand jour, puisque c'est le jour du rassemblement autour de la parole de Dieu. Alors, c'est là que je trouve l'actualité, frères et sœurs, les amis, retenons cette leçon, c'est autour de la parole de Dieu. Que faisons-nous le dimanche? Quelle place donnons-nous à la parole de Dieu? Quelle en est la résonance? Quelle en est l'importance pour nous aujourd'hui? Pas simplement de l'écoute, mais de la lecture de la parole de Dieu. Voilà les questions actuelles qui nous sont posées. Et alors que nous allons, dans quelques semaines, rentrer dans le temps du carême, nous allons réfléchir à voir comment nous pourrons lire cette parole de Dieu, nous réunir autour de la parole de Dieu, peut-être en prenant déjà la résolution d'être beaucoup plus fidèle à l'Eucharistie, beaucoup plus fidèle aussi à l'Eucharistie dans la semaine, dans la mesure où nous le pouvons, pour, avant de recevoir la Sainte Communion, n'oublions pas que c'est dans cette Eucharistie que se trouve celui qui est la parole. Amen.